bonjour à tous les auditeurs et les auditrices de Radio FM+. Je suis très heureuse de vous rencontrer pour une nouvelle brève rencontre. Et aujourd'hui, je vous propose de partir à la rencontre d'une femme de la Bible qui se nomme Déborah. Son histoire nous est racontée au chapitre 4 du livre des Juges. Et donc, puisqu'on a un peu de temps, je vais vous lire un peu ce qui se passe dans ce chapitre 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel sur les monts d'Éphraïm. Et les Israélites montaient vers elle pour le jugement. Elle fit appeler Barak. Elle lui dit « Voici l'ordre que m'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Va faire un recrutement sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, les fils de Nephtali et les fils de Zabulon. J'attirerai vers toi, au torrent de Kishon, Sisera, le chef des armées de Yabin, avec ses chars, avec ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi, ben je n'irai pas. Elle répondit, « J'irai donc avec toi, mais tu n'auras pas de gloire dans la voie où tu t'engages, car l'Éternel vendra Sisera aux mains d'une femme. » Puis Déborah se lève, elle se rend avec Barak à Kedesh. Barak convoque Zabulon et Nephtali à Kedesh. Une dizaine de milliers d'hommes montèrent sur ses pas, et Déborah monta aussi avec lui. On informa Sisera que Barak, fils d'Abinoam, était monté sur le mont Tabor. Sisera rassemble vers le torrent de Kishon 900 chars de fer et tout le peuple qui était avec lui. Alors Déborah dit à Barak, « Lève-toi, car voici le jour où l'Éternel livre Sisera entre tes mains. L'Éternel se met en campagne devant toi et Barak descend donc du mont Tabor avec 10 000 hommes à sa suite. L'Éternel met Sisera, tous ses chars, tout son camp en déroute devant Barak par le tranchant de l'épée. Sisera descendit de son char et il s'enfuit à pied. Barak poursuivit les chars de l'armée jusqu'à Harodesh-Goyim, et toute l'armée de Sisera tomba sous le tranchant de l'épée, sans qu'il en reste un seul homme. » Donc voici le début de l'histoire de Déborah. On croit souvent que la Bible est un texte qui développe une idée très patriarcale de la société. Bon, c'est pas complètement faux, mais en réalité c'est un peu plus subtil. Parce que à chaque fois qu'il y a des femmes, il faut se méfier. Lorsqu'elle est présente, ce qui va advenir est tout sauf banal et anecdotique. Alors c'est vrai qu'il y a des femmes pas très sympathiques qui nous montrent que finalement être femme ne fait pas quelque chose qui vient délivrer le peuple systématiquement. Ainsi, Delilah, Jézabel, Michal, toutes ont une attitude mortifère. Mais il ne s'agit donc pas de savoir si la femme est meilleure que l'homme, mais bien de s'apercevoir que lorsqu'une femme entre en scène dans le récit biblique, ce n'est jamais pour rien. Et la plupart du temps, elles savent s'y prendre pour éviter de s'enliser dans les impasses de l'injustice et de la violence. Leur audace n'a souvent d'égal que leur sens du discernement et parfois leur capacité à utiliser la ruse comme arme, non sans une certaine ironie. Et c'est ce qui va se passer d'ailleurs dans notre récit. Les femmes jouent un rôle déterminant. Elles posent, elles assument les choix qui engagent l'avenir. Elles ouvrent des brèches, empêchent le peuple et l'histoire de s'enliser, de sombrer dans le chaos. Leur rôle peut sembler ambigu, parfois transgressif, même profondément transgressif, choquant. C'est le cas ici aussi, dans la suite de notre récit, que nous entendrons après une pause musicale tout à l'heure. Mais une lecture attentive nous permet d'appréhender le chemin de vie qui s'ouvre. Alors l'histoire de Déborah est tout à fait stimulante. Je vais vous redonner le contexte en fait. Livre des Juges, temps très ancien, il n'y a pas encore de roi en Israël. Et finalement dans ce livre, on est continuellement en guerre contre un ennemi extérieur la plupart du temps. Donc Déborah est juge, nous dit-on, et même elle est prophétesse. Elle entre en scène dans ce récit du chapitre 4 du livre des Juges, mais il y a un récit double, puisqu'ensuite, au chapitre 5, c'est elle qui prend la parole et qui nous offre un magnifique poème qui vient réinterpréter, en quelque sorte, ce qui nous est dit ici dans le chapitre 4. Cela fait d'elle est en fait une croyante exemplaire puisqu'elle chante un psaume et un psaume à la gloire du Dieu d'Israël. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs ce texte le cantique de Déborah. Je vous invite à le lire tranquillement chez vous, vous pourrez apprécier la beauté de ce chant. Ce qui est loin d'être anodin, les textes attribués à des femmes sont bien peu nombreux. Et de plus, celui-ci fait l'unanimité chez les spécialistes de la Bible, ce qu'il faut noter, c'est extrêmement rare, comme étant l'un des textes les plus anciens de la Bible. De plus, ce récit ne manque pas d'une certaine ironie qui sert à dénoncer le renoncement de certains. Vous avez entendu, Barak ne veut pas y aller tout seul, il veut y aller avec Déborah, cette femme. La bêtise des autres, peut-être Barak et peut-être Sisera, on le verra tout à l'heure. Enfin, les penchants les plus sombres de notre humanité. Enfin, c'est un texte où il n'y a pas une, mais deux femmes, une autre, Yaël, donc, qui va entrer en scène juste après, une étrangère. Et c'est ici déterminant. Mais commençons donc par Déborah. Que signifie son nom? Vous le savez, dans le monde de la Bible, eh bien, les noms, les prénoms, là en l'occurrence, ont une signification très importante. Déborah, cela signifie en hébreu abeille. L'abeille est une figure très ambiguë. Certes, elle donne le miel. Ce miel si important, le pays est un pays de lait et de miel, mais c'est aussi celle qui pique. Et n'est-ce pas le cas de cette prophétesse? Ici, Déborah est à la fois celle qui nourrit son peuple, mais aussi celle qui est capable de l'amener au combat. Mais Déborah, c'est aussi un nom qui est construit sur une racine, la racine d'Abar qui signifie « parole ». Ainsi, elle est en quelque sorte la parole de Dieu. D'ailleurs, c'est ce qu'on nous dit. Elle est juge, elle est prophétesse, elle porte la parole de Dieu. Et puis enfin, c'est assez drôle, on nous dit qu'elle est femme de Lapidote. Alors Lapidote, c'est peut-être son mari, on ne sait pas. Mais Lapidote, ça signifie aussi torche, mèche de lumière. Donc on peut également penser qu'elle est femme de lumière, qu'elle éclaire. Elle ne perd pas espoir et elle en donne aux autres. Déborah nourrit, aiguille, éclaire son peuple, Déborah, prophète et poète. Un petit point donc sur le livre des juges, car il est assez rare de prêcher dessus, de parler dessus. Le chaos est croissant. Et Déborah est le premier grand juge. Il y en a eu d'autres avant elle, mais seuls quelques versets leur sont consacrés. Ici, deux chapitres entiers. Qui plus est, on nous dit en ouverture qu'elle est prophétesse. Il n'y a plus personne pour assumer courageusement le rôle attendu, alors Déborah va monter au front. À ce titre, elle est considérée comme une rassembleuse chargée de libérer, de gouverner, de nourrir, de gérer les conflits, de juger les habitants de son petit territoire qui lui font confiance. On voit toute l'étendue de son rôle et de sa puissance. Voilà, donc c'est avec humour donc que Déborah prévient le général. « Si je suis à tes côtés, la victoire ne te reviendra pas. Elle sera attribuée à une femme. » C'est ce que nous raconte la suite de l'histoire qui montre que c'est justement une femme qui va recevoir et qui va faire que le récit peut continuer. Si le récit est repris aussi dans deux versions, cela nous donne deux points de vue, celui du narrateur, celui de Déborah. C'est intéressant d'ailleurs, cette différence de point de vue, elle est essentielle pour nous amener à interpréter. Et Déborah donne déjà une première interprétation à ce qui se passe. Et sa première interprétation, c'est que c'est Dieu qui va libérer son peuple de l'armée de Sisera. Alors, à la complémentarité de ces deux récits, vient se greffer la nécessaire complémentarité des protagonistes, il y a aussi deux femmes, comme pour nous dire le besoin de complémentarité. Et ici, l'une est du pays, Déborah, l'autre est étrangère, elle se nomme Yaël. Elle aurait dû rester neutre, ne pas s'investir dans le conflit, et pourtant. Je vous invite, après cette pause musicale, à entendre la suite de notre histoire au chapitre 4 du livre des juges. Sisera s'enfuit à pied dans la tente de Yaël. Rappelez-vous, Sisera, toute son armée a été défaite et passée par l'épée, lui seul s'enfuit. Donc Sisera s'enfuit à pied dans la tente de Yaël, femme de Héber le Kénien. Donc, Yaël est une étrangère. Car la paix régnait entre Yabin, roi de Hatsor, donc du côté de Sisera, et la famille de Héber le Kénien. Donc, logiquement, Sisera pense pouvoir trouver refuge chez ce peuple avec qui il n'est pas en guerre. Yaël sortit au devant de Sisera et lui dit « Retire-toi, mon seigneur, retire-toi chez moi, sois sans crainte. » Et il se retira chez elle, dans la tente. Elle le cacha sous une couverture. Il lui dit « Donne-moi, je te prie, un peu d'eau à boire, j'ai soif. » On peut le comprendre, il vient de fuir le combat, il a certainement couru très longtemps, donc il a soif. Elle ouvrit l'outre à lait et lui donne à boire, elle le recouvre. Il lui dit encore, « Tiens-toi à l'entrée de la tente. Si quelqu'un vient te questionner en disant, « Y a-t-il ici quelqu'un ?» tu répondras, « Non. » Yaël, femme de Héber, saisit un pieu de la tente, le prend en main, s'approche de lui doucement et lui plante dans la tempe le pieu qui pénètre en terre. Il était profondément endormi, accablé de fatigue, et il meurt. Comme Barak poursuivait Sisera, Yaël sortit à la rencontre et lui dit « Viens, je te montrerai l'homme que tu cherches. » Il entre chez elle et il voit Sisera tombé par terre, mort, le pieu dans la tempe. Alors évidemment, on ne s'attend pas trop à avoir un tel récit dans la Bible, livre saint. Et là, le récit est d'une violence assez inouïe. Cette femme qui, en fait, par ruse, fait rentrer Sisera dans sa tente, tout ça pour après lui planter un pieu dans sa tempe, c'est quand même quelque chose qui n'est pas anodin et qui nous semble d'une violence finalement assez peu acceptable. Bon, mais qui est-elle donc, cette Yaël? Comme on l'a dit, les mots signifient, ont toujours une grande signification. Yaël, ça signifie bouc, mais aussi, c'est un nom doublement théophore. C'est assez intéressant que Yaël, on entend la racine Ya pour le tétragramme, Yahvé, et elle, la racine de Dieu. Donc, un nom doublement théophore. Elle a donc un nom hébreu, alors qu'elle est étrangère, c'est quand même assez intéressant. Elle va tuer le général. Et pourquoi, en fait, y a-t-il Yaël, ici, dans ce récit? Parce que nous l'avons entendu juste avant. Eh bien, la victoire est déjà acquise, toute l'armée a été réduite à zéro. Barak, l'éclair, est-il incapable de le poursuivre et de l'achever? Pourquoi tuer un homme qui n'a plus d'armée? Le danger reste, c'est bien sa capacité future à recomposer notre armée qui doit être désamorcée à l'avance. Donc il y a plein de questions ici. Pourquoi tant de violence alors que cela nous paraît inutile? Pourquoi finalement n'est-ce pas Barak qui arrive à ses fins? Et pourquoi une étrangère? Parce que finalement, pourquoi Yaël, elle l'étrangère, prend parti pour le peuple hébreu contre le peuple avec qui elle vit en bonne entente? Alors Yaël, c'est le pendant de Déborah. On a vu que Déborah, c'était le miel, la douceur, avec certaines formes de piquant. Vous savez, la terre promise, c'est la terre qui doit déborder de lait et de miel. Eh bien ici, Yaël, c'est le lait, vous l'avez entendu, elle offre du lait. Elle offre du lait à Sisera, sur cette terre promise, donc où coule le lait et le miel. Ainsi, le peuple a besoin de ces deux figures pour être nourri. Il y a plusieurs lectures possibles de cet épisode sanglant. Je vous en propose quelques-unes, mais vous pourrez vous aussi laisser votre réflexion chercher un peu plus. La première, c'est celle du moindre mal. C'est pas celle que je préfère, mais quand même, il ne faut pas passer à côté. En effet, parfois, faudrait-il arrêter le mal avant qu'il ne prenne des proportions énormes et que ses idées, ses idéologies, ses crimes s'étendent? Il est probable que si Hitler avait été tué au début de son parcours, l'histoire n'aurait pas été la même. Ici, le meurtre que va commettre Yaël va permettre au peuple hébreu de vivre en paix. au moins pour un certain temps si on voit l'histoire des juges. Mieux vaut en un seul mort, vaut mieux donc un seul mort qu'une guerre. La situation est critique, on ne peut pas se contenter d'attendre, il faut agir. Et là, également, cela ne manque pas d'humour. Le général ne se doute de rien du tout. Lui, une simple femme qui l'invite dans sa tente, le met sous les couvertures, c'est quand même des gestes finalement assez empreints d'un certain érotisme caché. Et peut-être qu'il s'attend tout à fait à autre chose de la part de cette femme. Mais pour l'instant, il est trop fatigué. Donc, il va avoir cette mort, lui qui pense être un grand général, et cette mort finalement assez infamante. Aujourd'hui, on a tendance dans notre monde à chasser la violence, voire à la nier. Pourtant, un tel récit eh bien, a aussi une dimension de catharsis. D'ailleurs, on l'en sent, on le sait, la peintre Artemisia Gentileschi, femme et peintre au XVIe siècle, violée et condamnée, va se servir de cette figure biblique et de celle de Judith aussi pour, de fait, montrer son désir de peut-être de revanche plutôt que de vengeance, de dire que finalement, elle, la femme bafouée, la femme violée, n'est pas une victime, mais qu'elle prend son destin en main. Quelque part, eh bien, elle va tuer de manière symbolique celui qui l'a violée à travers ses représentations. Elle est plusieurs fois blessée dans sa chair et on retrouve cela dans les représentations d'Artemisia qui sont très fortes. Donc, on voit Artemisia qui fait disparaître toute fragilité, c'est à elle, une femme forte qui visiblement a cette force pour achever celui qui pensait à la satisfaction de ses instincts basiques, la nourriture, mais probablement également le sexe, comme le suggère la couverture. Le guerrier vaincu n'est pas moins dangereux pour les poids fragiles que sont les femmes sur son passage. C'est encore tellement vrai aujourd'hui. Yaël ne résiste pas, ou plutôt, elle va encore plus loin. Et c'est bien cette rude qui va permettre la confiance et conduire l'homme à sa perte. Mais on peut également faire une lecture plus symbolique de ce pieu planté dans la tête. Tout se passe ici à l'abri des regards, dans une tente, comme dans des combats intérieurs que nous avons à mener aussi. Pour extirper le mal qui est en moi, je dois faire un acte violent, douloureux. C'est un vrai combat de faire sortir de mon crâne les mauvaises pensées, chasser mes penchants les plus vils. C'est une des clés de lecture qui me parle un peu plus que celle de la violence, mais pourtant cette violence peut être aussi une manière de comprendre combien Dieu est à côté de ceux qui souffrent. Le traitement des femmes comme indice et baromètre de l'état de la société. Ça, c'est une dernière explication que je voudrais vous proposer. Dans le livre des juges, on est au début, là, on voit des femmes fortes, elles ont des noms. Et dans cette société, finalement, la paix revient régulièrement. Mais petit à petit, lorsqu'on avance dans le livre, le chaos engloutit les femmes en premier, et puis en fait va engloutir tout le peuple hébreu. Donc, on peut faire une lecture plus continue et nous interroger sur la place des femmes aujourd'hui dans notre société, dans nos sociétés. Finalement, les sociétés où les femmes sont maltraitées, où les femmes sont cachées, les sociétés comme en Afghanistan ou en Iran, sont des sociétés finalement qui sont absolument épouvantables, dans lesquelles il est épouvantable de vivre pour les femmes comme pour les hommes. Ce sont des sociétés qui mènent au chaos. Et en fait, plus la place de la femme est importante, plus il est donné de faire une parité, ou tout du moins avancer main dans la main, hommes et femmes, plus la société eh bien, va être harmonieuse. Donc, il y a une vraie réflexion là, et c'est quand même étonnant parce que cette réflexion, elle a plus de 2000 ans, sur le lien entre une société harmonieuse et la place des femmes, mais aussi des petits, c'est tout au long de la Bible, on va retrouver cela, la place des femmes, des petits, des rejetés, pour que la société soit de plus en plus harmonieuse. Ainsi, la transgression de ces femmes est salutaire. Toutes les femmes utilisent des stratagèmes pour procréer ici, et elles acceptent la relation avec Sisera. C'est en quelque sorte une manière d'aller de l'avant, de transgresser. Et des femmes qui transgressent, il va y en avoir de nombreuses. Et des femmes étrangères qui transgressent, il y en aura énormément tout au long de cet Ancien Testament. La fille du pharaon, Rahab, la prostituée Ruth, et puis dans le Nouveau Testament, la syrophénicienne, etc. Elles puisent leur courage dans dans la terre, le lait et le miel, et aussi dans la parole de Dieu. La transgression, la subversion, c'est caractéristique du texte et du message biblique du Christ. Alors à très bientôt pour une autre rencontre.